Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Mais non, mais le sextoy est une chose tellement mécanique. C'est tellement mécanique. Tu peux imiter la texture, la dimension, ouais. Ce que tu veux. Tu imiteras jamais.
Rien ne vaut le va-et-vient de l'homme.
Mais non, mais l'important, c'est le goût.
Dans la curiosité, on vous dit tout sur les marques et le goût, pas celui du sextoy, n'en déplaise à Amanda Lear. On est avec Olivier Auroy, qui est directeur général corporate de l'agence CBA. Vous êtes, bonsoir, vous êtes communicant, designer, vous mettez en valeur les marques et leurs produits et vous vous intéressez au goût, à la façon dont les marques peuvent parfois aller jusqu'à le façonner. Le goût, si on essaye de le définir, c'est quoi? C'est une affaire de sens, de saveur?
Alors le goût, effectivement, c'est un sens. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est un langage universel, mais dans la bouche de chacun, c'est un dialecte. Et alors pour l'expliquer, c'est que si on prend la fraise, la perception de la fraise va être différente pour chacun d'entre nous.
Ah bon?
Bah oui, pour certains, ça va être plutôt gariguette, d'autres maras des bois, d'autres tagada, qui est la version un peu chimique. Ouais. Et en fait, c'est très lié à ce que vous mangez dans l'enfance. On en parlait avant l'émission avec Sidonie, mais si vous mangez une tarte aux fraises de votre grand-mère qui va être un peu avec de la vanille, votre perception de la fraise va être vanillée. Donc c'est incroyable. Et tous les tests, toutes les enquêtes le montrent, la perception d'une fraise est différente suivant chacun et suivant son histoire.
Mais alors, c'est-à-dire que c'est un boulot de folie pour les fabricants, parce que s'il y a 1000 goûts, comment on peut séduire les gens si personne n'a le même goût de fraise dans la bouche?
Et ben en fait, les gens qui font des arômes, en partenariat avec les industriels, ils doivent en fait réussir cet exercice absolument impossible de faire un goût de fraise, par exemple, qui va plaire au plus grand nombre, tout en réveillant des choses chez chacun qui sont finalement très personnelles. Donc c'est très dur.
Et très lié à l'enfance, on y reviendra tout à l'heure. Olivier Auroy, donc le goût, il y a quoi? Le salé, le sucré, l'amer.
Sulé, sacré.
Sulé, sacré.
C'est pas mal ça, ouais, sulé, sacré.
On en avance.
Salé, sucré, acide, amer. Et puis le dernier. Enfin, pas controversé, mais qui est l'umami.
L'umami.
Oui, qui est en fait, en japonais, ça veut dire goût savoureux. Qui est en fait, pour l'identifier, c'est un peu un goût de fond de sauce. C'est un peu le goût que vous avez quand vous mangez quelquefois des plats chinois qui se prolongent un peu comme ça. Et qui suscite beaucoup d'interrogations, mais qu'on ne perçoit pas tellement.
C'est un goût qui vient d'Asie, alors, c'est ça?
C'est un goût qui vient d'Asie, enfin, qui est identifié en Asie. Ouais,
l'umami, j'ai découvert ça, je ne connaissais pas.
Alors, le goût, c'est aussi une impression qui met en jeu plusieurs sens, j'imagine.
Alors, ça met en fait, ça implique tous les sens. On va le faire très rapidement. Alors, il y a la vue, la couleur. Je vous donne un exemple très simple. C'est on a marqué qu'un Esquimau qui regarde un steak saignant va saliver plus qu'un Grec qui regarde un steak saignant. C'est-à-dire que c'est encore une histoire de culture. Ouais. On sait que la couleur orange qui tend vers le brun est la couleur qui fait le plus saliver dans nos contrées, proche de gâteaux, proche de... Donc vous voyez qu'il y a un lien. Après, l'odorat, alors ça j'adore parce qu'on dit quelquefois, c'est connecté, mais vous comprenez qu'un japonais, il va être complètement perturbé quand il sent un fromage. Un japonais qui sent pour la première fois un fromage, ça se sent juste pas bon, ça pue.
Donc le goût, c'est une habitude.
Et voilà, donc ça veut dire que nous, en France, on est habitué depuis qu'on est petit à aller au-delà de ça sent pas bon. Oui. Mais donc c'est connecté.
Pour comprendre que c'est très bon.
Et donc, comprendre que c'est très bon.
Et du coup, cette odeur qui n'est pas agréable, va déclencher finalement nos papilles et le plaisir de... Par avance, d'une certaine façon, on va anticiper le plaisir
exactement.
De la dégustation.
On le voit bien aux aéroports de Roissy et d'Orly, vous savez, au duty free, il y a toujours cette odeur de fromage qui sort du duty free. On voit, c'est génial, les étrangers qui passent et qui sont là. Waouh, qu'est-ce qui se passe ici?
Vive la France.
Vive la France. Et puis,
l'audition, est-ce que par exemple, je ne sais pas, le craquant.
Exactement.
Ça peut stimuler le goût.
Le craquant, le croquant. De toute façon, tous les cuisiniers, tous les gens qui travaillent sur les aliments et les arômes, ils regardent l'ensemble des sens et comment ça fonctionne. La texture aussi, moelleux, onctueux, ça a un impact.
Olivier Auroy, vous êtes designer, vous êtes communicant, vous travaillez pour de grandes marques. Comment les fabricants capitalisent en fait sur notre vue et le toucher pour nous vendre leurs produits et puis notre sens du goût évidemment?
Alors en fait, tout l'enjeu, je pense notamment au packaging, c'est en fait de vous attirer, c'est-à-dire qu'avec le design du packaging, que vous allez vers le packaging, ensuite que vous le preniez, que vous l'emmeniez chez vous, que vous l'ouvriez et que vous consommiez.
C'est pas très COP21 ça.
C'est pas très COP21.
Il faudrait avoir un peu moins d'emballage et un peu moins de packaging.
C'est vrai.
Un peu plus de vrac.
En même temps, il ne peut pas y avoir de surpromesse. Hein. C'est-à-dire que j'entends quelquefois les gens qui disent « Ah bah oui, mais on nous met des dessins d'arbres. » En fait, c'est pas... De toute façon, si le consommateur, il n'aime pas, il se sent floué, il ne rachètera pas.
Ça, c'est pas faux.
Il n'y a pas de réachat. Mmh. On le voit encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Mmh. S'il y a filouterie, c'est fini. Mmh.
Et donc, alors, qu'est-ce qui nous attire? C'est quoi? C'est les couleurs? C'est
la présentation.
Ça joue sur quoi?
Les couleurs, la présentation, ce sont les évocations. Hein. Ouais. Aujourd'hui, on parle du goût, on ne parle pas des couleurs, mais c'est vrai qu'on est bien placé dans le studio. Le rouge a une vocation d'attirer le... Toutes les plus grandes marques, y compris la vôtre, sont en rouge, ouais. Hein, de toute façon. Et après, il y a le registre d'évocation. Donc, si on veut exprimer la naturalité, on va commencer à montrer des paysages, on va commencer à montrer, pourquoi pas, oui, la nature. Dans toutes les expressions.
On raconte une histoire.
Absolument.
Est-ce qu'il y a des combats, comment dire, un peu perdus d'avance pour les marques? Est-ce qu'il y a des goûts impossibles ou très difficiles à vendre? L'amertume, par exemple.
Alors, l'amertume, moi, j'aime bien l'amertume. Si vous voulez, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'amertume, d'abord, les gens qui font des arômes ont été missionnés pour la masquer. C'est notamment dans les produits pharmaceutiques. C'est-à-dire qu'un médicament... tel quel il est amer, et donc on a mis des arômes pour que ce soit plus facile à ingérer. Mais en fait, l'amertume, c'est un peu malentendu. On va parler de l'endive. Je vous ai retrouvé...
J'adore ça, les endives.
Ah, mais alors là, j'ai la définition dans le dictionnaire du pire de Stéphane Legrand. Écoutez, ça, c'est génial. Oui. Endive, la chicorée des jardins, dont la vertu comestible a été découverte longtemps avant notre ère par un individu dont le nom a été oublié, mais où que tu sois, salopard, on finira par te retrouver. C'est génial.
C'est très drôle.
C'est très drôle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est à tel point que là, maintenant, une endive
bien
n'est
brisée,
plus amère.
C'est délicieux.
Ouais, mais c'est quasiment plus amère.
Ah oui, d'accord.
C'est vrai que c'est moins amer que dans l'enfance.
C'est-à-dire que l'INRA, l'Institut de recherche agroalimentaire, etc., a travaillé des endives non amères.
Des endives non amères. Alors en plus, c'est dommage parce que l'amertume favorise l'appétence, ouvre l'appétit. Ouais. D'ailleurs, tous les apéritifs sont à base de ont une saveur amère. Par exemple, tout ce qui est Dubonnet, Beer, Saint-Raphaël, c'est la quinine. Ouais. C'est le quinquina, ouais, qui est amer. Vous regardez, hein, le gin, amer. La plupart des apéritifs sont amers parce que ça ouvre l'appétit.
D'accord.
Moi, j'aimerais bien dans un instant savoir comment on attrape le goût comme ça des enfants, comment les fabricants essayent de séduire nos enfants dès le plus jeune âge. C'est possible, Olivier, de nous
possible.
Raconter?
Eh ben, c'est dans un instant sur RTL. Restez avec nous.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Le goût est le sens qui permet la perception des saveurs.
Les dinas, essayer, c'est grandir.
Les substances introduites dans la bouche stimulent des récepteurs sensoriels disposés sur les papilles gustatives de la langue ainsi que sur la paroi postérieure du pharynx.
Kinder Chocolat, un cœur au lait tendre.
Ces récepteurs réagissent avec une intensité variable aux diverses sensations gustatives.
Nutella réveille notre enthousiasme.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On parle de notre goût dans la curiosité avec Olivier Auroy, directeur général corporate de l'agence CBA. Notre goût se forme en grandissant, en vieillissant, mais l'apprentissage, il commence quand, Olivier?
Alors attention. En fait, il commence dans le ventre de la maman. Pourquoi? Parce que, en fait, alors si par exemple la maman allaite, le lait maternel, en fait, il véhicule les saveurs. Vous savez, c'est toutes ces croyances comme si la maman mange du chou, le bébé il va faire la grimace, il ne veut pas téter le sein de sa mère. Mmh. En revanche, on dit que si on mange par exemple du fenouil, ça donne un petit goût acidulé, il le prend plus volontiers. En fait, on s'est rendu compte que la maman peut transmettre à son enfant les saveurs parce qu'elle mange. Donc ça montre que le lait maternel est peut-être meilleur, mais ça montre aussi que ça se joue très tôt. Donc en fait, ce que je veux dire est horrible, mais si on veut influencer le goût des bébés, il faut commencer par influencer le goût des mamans.
Donc il faut d'abord bien se nourrir. Mais après, une fois que le bébé est né, à quel âge il goûte, il ressent vraiment le vrai goût des aliments?
Alors ça commence à 6 mois, et en fait on dit en général que c'est entre 6 mois et 3 ans. Donc en fait tout ce qui se passe jusqu'à 3 ans est important. C'est-à-dire que tout l'apprentissage du goût est important.
Ah oui, parce que c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure en fait. On se souvient, c'est une mémoire profonde, gustative, qui dure longtemps et dont on se souviendra des années plus tard. C'est la Madeleine de Proust en quelque sorte.
Oui, vous savez, vous souvenez dans Ratatouille, le critique astronomique Anton Ego, qui tout d'un coup mange... une ratatouille qui lui rappelle son enfance. Et là, tout s'écroule, il s'extraordinaire, il en pleure.
Toute sa méchanceté s'évanouit d'un seul coup. C'est ça.
Parce que c'est voilà. Mais on en reparlera peut-être plus tard avec les pays étrangers. Mais par exemple, c'est vrai que les petits Indiens, eux, le curry, ils y sont habitués, évidemment, dans le ventre de la maman. Mais très, très jeunes, ils mangent du curry. Donc pour eux, le curry, c'est...
Donc ce qui nous arrache le palais, pour eux, c'est une...
Ah, c'est tout à fait normal.
C'est normal. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils ont un palais moins... c'est horrible ce que je veux dire, mais subtil que nous.
Moi, je dirais qu'ils ont plutôt un palais beaucoup plus subtil parce que
plus riche.
Eux, ils reconnaissent la cardamome, le curcuma, la girofle, le fenugrec, la nigelle, la jouane. là, je fais le malin, mais il y en a beaucoup. Non, ouais. Mais je vous dis, moi, ma fille.
Non, mais pourquoi je vous dis ça? Parce que si on sait, moi, l'impression que j'ai, c'est que si je m'habitue à manger des plats très épicés, j'ai besoin que les plats soient de plus en plus épicés pour les trouver épicés. Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui.
Donc, est-ce que c'est vrai?
Mais
que,
ça, c'est vrai, c'est une perception française.
D'accord.
Quand si on dit ça en arrière, dit, mais c'est pas une question de plus fort, c'est juste une variété. Moi, ma fille Elena a vécu en Orient et elle a mangé pimenté parce qu'on était en Orient pimenté. Elle n'a aucun problème par rapport au gamin du même âge, elle a 8 ans maintenant. Elle a aucun problème à manger des aliments pimentés parce qu'elle est habituée.
Et les petits pots, Olivier Auroi, les petits pots qu'on peut acheter pour nourrir ses enfants, est-ce que les recettes sont particulières, respectent une charte de goût par exemple pour les enfants?
Alors, c'est très normé. Il y a un mythe qui dit « Ah oui, on met beaucoup de choses dans les petits pots pour bébé ». Pas du tout. On peut même dire que les petits pots pour bébé ont peut-être moins de goût. Si on prend, je ne sais pas moi, une recette de purée carotte-pomme de terre, la purée carotte-pomme de terre d'un bébé aura moins de goût qu'une purée carotte-pomme de terre pour adulte. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de mettre trop de goût et de trop la rehausser avec des arômes.
Donc, il n'y a pas d'exhausteur, il n'y a pas d'arôme, c'est ça?
Beaucoup moins. Beaucoup moins. C'est très normé. Ouais.
Mais il faut apprendre les goûts à ses enfants.
Il faut apprendre les goûts à ses enfants en leur faisant la cuisine. Là où les industriels peuvent jouer un grand rôle, c'est qu'ils peuvent jouer la variété. C'est-à-dire introduire, pas être toujours sur de la patate, introduire des légumes nouveaux, varier les recettes. C'est très important.
Le goût, vous nous le disiez, donc il se forme, il commence très tôt, dans le ventre de la maman, ensuite pendant l'allaitement, il se forme au fur et à mesure que les enfants grandissent, que l'on vieillit les uns et les autres. Est-ce que ça veut dire que notre goût s'enrichit ou au contraire, est-ce qu'il s'altère en vieillissant?
Alors, les papilles, je crois qu'il y a 10 000 papilles entre la langue et le pharynx. Je crois que ça, c'est assez stable au cours du temps. Mais c'est en fait, c'est en grandissant, c'est l'éducation. C'est plus on grandit, plus on a envie de faire d'expérience. Moi, j'aime bien cette citation. Il était très courageux, le premier homme qui a goûté à une huître. Parce que c'est vrai que l'aspect n'était pas ragoûtant. Pourtant, quelqu'un l'a fait.
Une brève de comptoir.
Absolument. Moi, j'aime bien l'exemple des alcools. C'est-à-dire que quand on est adolescent, on s'enivre à coups de vodka orange, par exemple. Ensuite, c'est la bière. Ensuite, c'est le vin. Ensuite, c'est le whisky. En fait, on a l'impression que plus on grandit, plus on va vers la complexité et l'amertume, presque.
Oui, parce que le whisky, on parlait d'amertume tout à l'heure. Pas facile à vendre sur le papier, l'amertume du whisky.
Pas facile à vendre sur le papier. Pourtant, on sait, ça cartonne dans le monde entier. Maintenant, les gens s'affrontent sur le goût iodé, sur le goût du fruit confit ou de tourbe. Ça devient... quelque chose de très très fort.
Est-ce que les hommes et les femmes ressentent le goût différemment?
Alors j'ai posé la question à un de mes clients, je vais les citer, qui s'appelle Jean Niel, qui est une des plus vieilles maisons de parfums et d'arômes dans le sud de la France depuis 1779. Et ils m'ont dit en fait que quand ils font des tests, quand ils testent les produits, il n'y a pas forcément de grande différence, si ce n'est que quand ils expriment. Quand un homme et une femme expriment, par exemple, ils goûtent que, par exemple, récemment, ils travaillaient sur un sirop qui a un goût de madeleine. Intéressant, plutôt parler de madeleine de Proust.
Oui.
Et alors, par exemple, typiquement, la femme va dire « Ah bah oui, ça me rappelle la madeleine que je trempais dans mon café. » Et l'homme dira « Ouais, c'est un goût de madeleine, quoi. »
Ah oui, les femmes sont plus expressives. Et puis
peut-être
on le disait au début de l'émission.
Mais on a chassé pas mal d'idées reçues là-dessus. On va se poser une question toute simple. Est-ce qu'on peut perdre le goût? Restez avec nous sur RTL, dans la curiosité.
Vous écoutez RTL.
Je vous raconte l'histoire du goût dans la curiosité. On a du goût et on le partage. Comment les marques façonnent notre goût? C'est ce que nous raconte notre invité, le communicant designer Olivier Auroi. On va parler de la perte de goût. Ça porte un nom très savant. L'Agueuzy est l'une des scènes de cinéma les plus drôles à propos d'Agueuzy. C'est dans L'aile ou la cuisse avec Louis de Funès et Coluche.
C'est un Bordeaux. Un grand Bordeaux. Un peu de pourriture noble en suspension, les impuretés descendent lentement. Ce vin a 23 ans. C'est un 53, une très grande année. Le vin, c'est la terre. Celle-ci et légèrement graveleuse, Château Léoville-Lascaz, 1953. Exact.
C'est Philippe Bouvard qui joue le rôle de l'animateur de l'émission de télé où on est censé piéger Louis de Funès alias Charles Duchemin. Il a perdu le goût et réussi à reconnaître un vin simplement comme ça en le humant et en l'observant. Olivier Auroy, c'est quoi la gueusie ? Comment on perd le goût ? C'est lié à quoi ?
C'est la perte du goût, c'est très rare. Alors d'abord, on a vérifié, c'est très 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 rare et il n'y a pas vraiment d'explication. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, on perd le goût. Et l'odorat.
Oui, c'est lié.
C'est lié.
Souvent, les gens qui perdent l'odorat perdent le goût.
Absolument.
Dans la foulée,
ouais. Ouais, tout à fait.
Le goût, c'est évidemment une source d'émotion. On en a parlé, Olivier Auroy, on parlait de cette fameuse Madeleine de Proust. Comment les industriels ont compris, qui ont bien compris ce facteur souvenir, l'appliquent aux marchandises qu'ils nous vendent pour nous attirer, pour nous satisfaire?
Bon, en fait, ils développent des produits. Ce qui est intéressant, c'est notamment les cadras et la génération Casimir, hein, donc la mienne, 10 ans 79, ça ne rajeunit pas. Et là, c'est l'époque Carambar, Marshmallow, Roudoudou, Dragibus, Carensac. Et en fait, ils en arrivent à développer des produits qui rappellent ces saveurs précisément.
Mais par exemple ?
Ça peut être, je sais pas moi, il y a des sirops actuellement, on va le citer parce qu'il est français, ils sont super, il y a les sirops Monin qui sont en train de développer plein de gammes de sirops et ils jouent là-dessus. Ils jouent notamment sur des saveurs de bonbons, sur des saveurs de...
Et des restaurateurs qui font ça
et
aussi.
Et puis les restaurateurs, il y a les fameux desserts au carambar. Ouais. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que le carambar, en fait, c'est à base de caramel, donc il décline tout. On va avoir un dessert à base de carambar, on va avoir une tarte à thym au carambar, on va avoir un gâteau, un riz au lait au carambar. Mais en fait, c'est quoi ? C'est tout au caramel. Pourrait appliquer le même principe.
Mais carambar, c'est plus une marque, en fait, pour nous les cadras, c'est des souvenirs, c'est un bonbon, en fait. C'est une saveur.
C'est devenu un goût, il y en a d'autres.
Ouais. Olivier Auroy, on continue, évidemment, de créer, d'inventer de nouveaux goûts aujourd'hui ?
Toujours. On invente de nouveaux goûts. Alors, l'invention du goût, c'est parce qu'il y a des demandes de plus en plus fortes. On pourrait croire que tout s'uniformise. En fait, c'est le contraire qui se produit. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de goûts qui sont créés. Et notamment, moi, je pense notamment au mouvement craft aux États-Unis pour la bière artisanale, où en fait, il y avait des grands industriels. En fait, c'est le contraire. Il y a plein de petits artisans qui développent des goûts différents.
Micro-brasseries.
Et en fait, dans tous les secteurs.
De l'invention de nouveaux goûts, on ne parle pas forcément de malbouffe.
Pas spécialement. Après, ce sont des combinaisons. Il faut comprendre qu'une combinaison aromatique, c'est plusieurs arômes mis ensemble. C'est pas forcément créer un arôme Frankenstein. Non, c'est souvent des combinaisons.
Mais quand on dit arôme, on pense chimique.
Non, alors il y a deux types d'arômes. Il y a les arômes naturels, en fait, qui sont liés de l'extra. Par exemple, si on prend la vanille, l'arôme naturel de vanille, il vient de l'extraction d'une gousse de vanille. Et il y a l'arôme synthétique, qui est en fait une reproduction chimique à l'identique de la formule de l'arôme de vanille. Vous pouvez scanner en fait n'importe quel aliment, vous allez voir la composition de l'arôme et vous la reproduisez.
La vanilline, par exemple.
C'est le cas d'une vanille synthétique.
Ah, ça c'est chimique. Si on voit ça sur un paquet, on sait que
c'est pas bon signe.
D'accord. Alors par exemple, quand on voit tous ces paquets de chips, il y a des rayons quand même absolument incroyables. On voit chips saveur poulet. Ou chips vinaigre. Bon, ça, c'est encore un peu
sandwich
différent.
Sandwich parisien,
mais...
moi, j'avais vu une fois. Chips saveur sandwich parisien. Achète-toi un sandwich si tu veux un sandwich. C'est drôle.
Mais gode pas.
Là, il joue la ludicité. Oui. En fait, voilà un exemple. Ça, c'est un exemple type. Quand vous disiez, est-ce que ça fait appel à la mémoire ? Là, c'est typique sur les chips. C'est-à-dire qu'ils vont reprendre une saveur d'il y a 30-35 ans et ils utilisent en fait la chips comme un vaisseau spatial qui porte les trucs, en fait.
Oui, mais enfin, le poulet rôti, on peut en manger la veille quand même.
On peut en manger la veille. Mais
ça, j'imagine que c'est artificiel. Ça se crée en laboratoire, ces arômes.
Ça se crée en laboratoire. Il faut savoir que les arômes salés, ce sont les plus récents. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Et d'ailleurs, je vous invite à aller du côté de Grasse, près des chez les gens qui font les arômes. Vaut mieux pas y passer un jour où ils font ail ou. C'est incroyable. Ça, toute la région qui est.
Arôme et parfum, ça se mélange parfois, on commence à voir ça.
Alors, il y a des sirops à la violette, il y a des sirops à la rose. Alors, on m'a dit, mes amis de Journiel m'ont dit qu'aujourd'hui, c'est les fleurs blanches. La fleur blanche s'invite chez les arômes. Côté parfum, il y a eu toutes les gammes de parfums dits sucrés alimentaires avec les Thierry Mugler et compagnie. Donc quelquefois, ça s'influence, oui, tout à fait. Il y a des ponts.
Le sucré, c'est un peu le goût le goût du sens universel, commun, le goût universel, c'est celui qui nous attire tous, c'est ça ?
C'est celui qui attire les petits, mais ce qui est intéressant, c'est aussi celui qui attire les plus vieux. On sait que vers la fin de notre vie, on se rapproche...
On a la dent sucrée.
On a la dent sucrée, on se rapproche de l'âge de bébé, mais ça joue aussi pour le goût.
Donc ça veut dire que cette fameuse pâte à tartiner avec ce goût unique, les noisettes... Ça, c'est une invention aussi.
C'est une invention. En fait, c'est une invention. Vous connaissez l'histoire. C'est du chocolat à noisettes qui a fondu au soleil en Italie. Ils s'en sont pas rendu compte.
Le point de départ, c'est ça.
Oui, c'est ça. C'est de la sérendipité pure et dure, hein, comme la tarte tatin ou le cognac. Et en fait, ça a fondu. Ça a fait de la pâte. Ils se sont dit ah, pourquoi pas. Mais en fait, c'est
après il y a un génie du marketing, du design pour vendre ce produit.
Oui, mais la marque en question, elle est quand même assez ancienne, donc le goût s'est imposé. Vous savez que 80% des consommateurs, on peut le citer la marque ou pas ?
Oui, Nutella, bien sûr.
Alors, voilà. 80% des consommateurs, s'ils n'ont pas, qui veulent acheter du Nutella, s'il n'y a pas de Nutella, ils n'achètent rien d'autre. Ce qui est quand même dingue. S'il y a une marque,
un distributeur,
ils ne la prennent pas. C'est très rare.
C'est vrai pour d'autres produits ?
Je pense que ça doit être à peu près vrai pour les colas, oui, pour un certain nombre de marques comme ça, oui. Le cola,
si je suis Pepsi et qu'il n'y a que du Coca, je ne vais pas en prendre, et vice-versa. Quoi. Ouais. D'accord.
La Pink Lady, par exemple, cette variété de pommes, elle est nouvelle. Qui l'a créée ? Comment ?
Alors, je ne sais pas qui l'a créée. Je sais que c'est un mélange entre la Golden Delicious et la Lady Williams.
Ouais.
Et alors, en fait... Les notes, c'est fraise des bois, vanille, rose et litchi.
Il y a tout ça dans la Pink Lady.
On se croit dans un Beaujolais, pardon.
Il y a tout ça dans la Pink Lady.
Il y a tout ça dans la Pink Lady.
Mais c'est quoi l'objectif ? C'est de nous faire acheter.
C'est de nous faire acheter. En fait, il y a quelque chose moi qui me fascine, c'est que l'arôme, le goût n'est pas déposable. C'est pas brevetable. Ça n'est pas considéré comme une œuvre de l'esprit. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que on prend un goût sur un produit, on en fait une marque, et en fait, c'est la marque qu'on dépose. Mais la bataille des pommes, elle est incroyable. J'en parle au marché là. Il y a des pommes comme la Rubinet. C'est rigolo comme nom ça. Rubinette qui a une pomme avec un goût de poire par exemple.
C'est original.
Est-ce qu'à l'inverse, donc, il y a des goûts qui sont menacés de disparition ?
J'ai envie de vous dire non. Parce que justement, je trouve que la société est un peu comme un organisme, il s'autodéfend. Et dès qu'on essaie de niveler, d'aplatir et d'uniformiser, il y a toujours des poches de résistance.
D'ailleurs, même les légumes oubliés, ce qu'on appelle comme ça, reviennent sur le marché.
Il y avait eu le fameux potager de Versailles, et puis maintenant, il y en a partout. Les goûts anciens reviennent. Regardez dans vos marchés maintenant, on voit le topinambour,
le panais,
le crône.
Le quoi ?
Le crône.
Il m'avait échappé celui-là.
Ah ouais.
C'est bon, purée pour les enfants, j'essaierai.
Merci beaucoup. Merci Olivier Aura. Je rappelle que vous êtes directeur général corporate de l'agence CBA.
Vous écoutez RTL.